Le Décaméron, le curé de Varlogne. Dans le village de Varlogne, qui, comme on sait, ou comme on l'a ouï dire, n'est pas fort éloigné de la ville de Florence, il y eut un maître curé, vigoureux de sa personne et très propre pour le service des dames. Ce bon pasteur, qui savait à peine lire, avait néanmoins le talent d'amuser ses ouailles et de les divertir le dimanche au pied d'un orme par ses contes et ses propos joyeux. Et quand les maris s'absentaient, ils savaient visiter leurs femmes auxquelles ils donnaient la bénédiction, leur portant tantôt du gâteau, tantôt de l'eau bénite et quelquefois des bouts de chandelle. Parmi les paroissiennes à qui il faisait ainsi sa cour, il n'y en avait point qui lui plût davantage que Belle Couleur, femme d'un paysan connu sous le nom de Bienteviene de Mazzo. C'est à la vérité une bonne villageoise, dodue, fraîche, brunette, bien décuplée, telle en un mot qu'il la fallait à monsieur le curé. Elle était d'ailleurs de meilleure humeur du monde, toujours la première à danser, chantant au mieux l'air d'une bourrée et jouant parfaitement du tambourin. Le curé en devint si fort amoureux qu'il faillit en perdre l'esprit. Il courait tout le jour, tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, dans l'espérance de la voir. Et quand il savait, le dimanche et les jours de fête, qu'elle était à l'église, il chantait de toutes ses forces pour lui persuader qu'il était grand musicien. Mais quand il n'y voyait point sa chère Belle Couleur, il s'y prenait avec plus de modération. Cependant, quelque passionné qu'il fût, il sut si bien faire que bien ne vienne ni personne ne s'aperçut de l'amour qui le tourmentait. Et pour se rendre favorable celle qui en était l'objet, il ne cessait de lui faire de petits présents et lui envoyait tantôt une botte d'ail frais, tantôt des oignons nouvellement cueillis dans son jardin, tantôt des petits pois et quelquefois un bouquet de fleurs. S'il la rencontrait quelque part, il la regardait du coin de l'œil comme un chien qui en veut mordre un autre. Mais la paysanne, faisant semblant de ne pas s'en apercevoir et bien aise de paraître sauvage, passait presque toujours sans s'arrêter. Ce dédain chagrinait fort monsieur le curé. Il ne se laissa pourtant pas décourager par les froideurs de la belle. L'amour était trop enraciné dans son cœur pour être en état d'y renoncer. Tel est le charme de cette passion qui nous plaît, lors même qu'elle nous rend malheureux. Un jour qu'il se promenait, ses mains derrière les dos, l'air pensif, le hasard voulut qu'il rencontrât Bienteviene monté sur un âne chargé de différentes productions de son jardin. Il demanda où il allait. « Oh, je vais à la ville, monsieur le curé. Oui, je vais à la ville pour une affaire importante. Je porte ces fruits et ces légumes au seigneur de Bonacorgi de Bergeret pour l'engager à me traiter favorablement, car vous saurez qu'il m'a fait donner une assignation par son coquin de procureur, juge des bâtiments, pour comparaître devant le tribunal civil. » « Mais tu fais bien, mon cher ami, » dit le curé, fort content dans le fond de son cœur. « Dieu te conduise et reviens le plus tôt que tu pourras. Si tu rencontres par hasard Lapuccio, mon collègue, ou Nanino, mon valet, je te prie de leur dire de rapporter des attaches pour mes fleux et eaux. » Bienteviene lui promit et continua son chemin. Le prêtre crut que c'était là le moment favorable pour aller voir sa bien-aimée Belle Couleur et pour faire une tentative auprès d'elle. Il courut droit à sa maison et dit en entrant : Dieu veuille envoyer ici tous les biens qui sont ailleurs. La paysanne, qui était montée en haut, l'ayant entendu : Oh, soyez le bienvenu, monsieur le curé, lui dit-elle. Et où allez-vous donc ainsi, traînant votre queue par le chaud qu'il ferait ? Oh, j'ai trouvé ton mari qui allait à la ville, répondit le pasteur. Et je suis venu passer quelques instants avec toi. Belle Couleur, étant descendue, fit asseoir le curé et reprit son travail, qui consistait à trier de la graine de chou que son mari avait cueillie depuis quelques jours. Le curé, profitant du tête-à-tête, entama ainsi la conversation. « Il est donc décidé, ma chère amie, que tu veux toujours me faire souffrir. Moi, qu'est-ce que je vous fais ? Ben, tu ne me fais rien, la vérité. Mais n'est-ce pas assez de m'empêcher de faire avec toi ce que je voudrais ? Est-ce que les prêtres font cela ? Sans doute, et mieux que les autres hommes. Pourquoi donc ne ferions-nous point ? N'avons-nous pas tout ce qu'il faut pour cette besogne ? Nous y sommes même plus habiles que les autres, parce que nous le faisons pas souvent. Laisse-moi besogner avec toi. Je t'assure, tu t'en trouveras bien. Mais j'en doute fort, car vous êtes tous avares comme des diables. T'ai-je encore refusé quelque chose ? Demande-moi ce que tu voudras, et sois sûr de l'obtenir. Veux-tu une paire de souliers, un ruban, un fichu ? Mais j'ai tout ce que vous m'offrez là, et puisque vous m'aimez tant, rendez-vous-moi donc un service. Je ferai ensuite tout ce que vous voudrez. Parle, reprit le curé, avec vivacité. Oh, je suis prêt à faire tout ce qui te sera agréable. Je dois aller samedi prochain à Florence, dit Belle Couleur, pour vendre de la laine que j'ai filée et pour faire raccommoder mon rouet. Si vous voulez me prêter 100 sols, que vous avez assurément, vous mettrez dans le cas de retirer de chez un usurier ma jupe et mon tablier des dimanches que je portais le jour de mes noces. Voyez, si vous êtes dans l'intention de me donner cet argent, ce n'est qu'à cette condition que vous obtiendrez de moi ce que vous désirez.
Oh, je n'ai pas d'argent sur moi, mais je m'engage à te donner les 100 sols avant samedi.
Oh, vous autres gens d'église, vous promettez beaucoup et ne tenez rien. Vous ne ferez pas de moi comme de la crédit d'Il Biadanza, que vous envoyâtes bellement sans lui donner un seul liard, et qui, à cause de cela même, est devenue fille du monde. Oh non, je ne suis pas d'avis de me laisser duper de même. Si vous n'avez pas d'argent que je vous demande, allez le chercher.
Épargnez-moi de grâce la peine d'aller chez moi par le grand froid qu'il chaud qu'il fait. D'ailleurs, songe que nous sommes sans témoins et qu'il n'en serait peut-être pas de même à mon retour. Profitons de l'occasion, puisqu'elle est si favorable.
Allez-y, vous dis-je, sinon vous n'en tâterez point, je vous jure.
Le prêtre, voyant qu'elle était résolue à ne consentir à rien, sinon une saloum et fac, et le désirant faire la chose sine custodia, puisque tu ne crois pas, lui dit-il, que je rapporte les 100 sols, tiens, voilà mon manteau que je te laisse pour gage.
Voyons ce manteau, est-ce qu'il peut valoir ?
Mon manteau est d'un beau drap de Flandre, à 3 bouts et même à 4, au dire de mes paroissiens. Il n'y a pas encore 15 jours que le fripiotto me le vendit 10 bonnes livres. Et Bullet, qui, comme tu sais, se connaît en étoffe, prétend qu'il en vaut 15.
Bon, ça me paraît un peu difficile à croire, mais je veux bien m'en contenter. Nous verrons si vous êtes homme de parole. Le curé, qui brûlait d'envie de saisir, satisfaire sa passion, lui remit son manteau, et après qu'elle l'eut enfermé dans un coffre, « Passons, lui dit-elle, dans la grange, où jamais personne ne vient. » Le curé la suivit et s'amusa avec elle de la bonne manière. Après s'en être donné tant qu'il put en prendre, il se retourna chez lui en simple soutane, comme s'il venait de quelque noce. Et à peine fut-il arrivé au presbytère que, considérant le peu de profit qu'il tirait de sa cure, il se repentit d'avoir laissé son manteau et pensa au moyen de recouvrer sans être obligé de donner la somme convenue. Toutes les offrandes de l'année réunies auraient à peine pu la former. Son esprit malin et rusé lui fournit un expédient. Comme le jour suivant était un jour de fête, il envoya le fils d'un de ses voisins chez Belle Couleur pour la prier de lui prêter son mortier de marbre, prétextant d'avoir du monde à dîner, ce qu'elle fit de grand cœur. Deux jours après, il le renvoya par un clerc, alors qu'il jugea que Bienvienne et sa femme devaient être à table. « Monsieur le curé m'a chargé de vous bien remercier, » dit le clerc en s'adressant à la femme, « et vous demande le manteau que le garçon laissa pour gage en vous empruntant le mortier. » Belle Couleur, fronçant le sourcil à cette demande, allait répondre lorsque son mari l'en empêcha en lui disant d'un air fâché, et d'où vient que tu prends des gages de notre curé? Tu mériterais en vérité que je te donnasse un bon soufflet pour t'apprendre à te fier ainsi de notre honnête pasteur. Rends-lui vite son manteau et garde-toi de lui jamais rien refuser sans gage, demandait-il. Même notre âme. La femme se lève en grognant entre ses dents, sort le manteau du coffre et dit au clerc en le lui remettant, « Ah, je te prie d'assurer de ma part, monsieur le curé, que, puisqu'il s'agit de la sorte, il ne pilera de vie à mon âme mortier. » Le clerc s'étant acquitté de la commission, « D'accord, répondit le curé. Mais tu peux dire aussi à Belle Couleur, quand tu la verras, que si elle ne me prête point son mortier, je ne lui prêterai point mon plume, mon pilon. L'un vaut bien l'autre assurément. »